Warning. Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
You think about the past much, Frank?
Much as the next guy.
See, I've been trying to remember things. Clearly remember things from my past. But the more I try to think back, the more it all starts to unravel. None of it seems real. It's like I've just been dreaming this life. And when I finally wake up, I'll be somebody else. Somebody totally different.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarks secondes.
Bonjour et bienvenue au 56e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et à mes côtés, Marie-Louise Gariepi.
Allô.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur iTunes. Vous pouvez en profiter pour nous laisser un petit 5 étoiles. Si vous aimez ça, c'est très apprécié toujours et ça nous donne une meilleure visibilité.
On est aussi sur... Ce serait correct, 4 étoiles aussi.
Ouais. Visons plus haut.
Tant qu'on a des étoiles.
Ouais. Tant qu'on a des petites étoiles, on est content. On est aussi sur RZO Web, sur Balado Québec, sur Pod Québec, un petit peu partout. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, c'est aussi très apprécié. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à l'adresse 24quarks@gmail.com. Un petit changement de programmation aujourd'hui. On avait prévu de faire The Matrix, mais on va se le garder pour un prochain épisode car on espère avoir un invité pour participer à la discussion. Possiblement. Ouais, c'est pas sûr, mais on va essayer. Donc, on a choisi un autre film pour aujourd'hui, qui est sorti un an plus tôt d'ailleurs, et qui a quelques points communs intéressants avec The Matrix.
Oui, on parle souvent des deux.
Ouais. Et il s'agit de Dark City.
Surprise!
Alex Proyas.
Super film, Dark City.
Dark City d'Alex Proyas, qui est sorti en 1998. Avant ça. J'ai pas de plug super important. Il y a The Walking Dead qui a repris la saison 9. Je sais que c'est toujours le grand débat, genre, ouais, l'apocalypse
non, c'est
zombie, c'est-tu de la science-fiction ou pas? Moi, je considère que oui, mais c'est du post-apocalyptique.
Ça dépend.
Moi, c'est dans ce côté-là.
C'est parce que c'est fantastique en même temps. Puis, c'est la différence entre la fantastique et la science-fiction. Le zombie, c'est vraiment un truc fantastique, un peu à la Hoffman, tu sais, ces vieux Maupassant, tu comprends, où est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe. J'allais dire Kafka, mais Kafka aussi, mais c'est plus absurde. Mais je pensais aussi à Edgar Allan Poe, tu sais.
OK, ouais.
Donc, c'est pas... puis l'autre, évidemment, le... H.P. Lovecraft.
Ah, H.P. Lovecraft.
Non, Wells, c'est de la science-fiction. C'est des martiens qui envahissent ça. Ben, peut-être pas tout Wells, je connais pas tout, mais Lovecraft. Donc, tu sais, pour moi, les zombies, c'est vraiment dans la tradition de Lovecraft. À la limite, Frankenstein, comment s'appelait la femme?
Mary Shelley.
Tu sais, de ce style-là gothique, un petit peu, tu sais, il y a quelque chose de très... Oui, c'est la mort, tu sais, c'est une célébration de la mort, une sorte de fantasme, une orgie de mort, là, tu sais. Des fois, ça se mélange un petit peu comme quand t'as celui avec Will Smith, là, comment ça s'appelait ça?
I Am Legend, ça
I
c'est
I Am Legend, parce que c'était basé sur... C'était un virus, finalement, qui était créé peut-être en laboratoire, qui était à la cause de ça.
Ce qui est aussi on ne sait pas vraiment dans Walking Dead, mais oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une épidémie, il y a eu quelque chose qui s'est passé.
Oui, mais le principe de l'épidémie, c'est pourquoi l'épidémie n'est pas de la science-fiction nécessairement. Mais c'est là, on rentre, est-ce que c'est un truc du futur, tu sais? Mais moi, je trace quand même une ligne parce que dans la science-fiction, il y a toujours l'idée d'une progression de la technologie ou de l'être humain ou d'une sorte d'une évolution de la culture humaine. Là, tu sais, ça pourrait être aussi bien un virus qui se passe aujourd'hui, ça change pas, c'est pas une évolution, c'est juste comme une sorte de catastrophe qui change tout. Là, tu vas dire, oui, mais là, le post-apocalyptique, effectivement, mais il y a comme une évolution de la race humaine à travers ça. Donc, tu sais, c'est limite un peu pour moi l'invasion de zombies parce que c'est trop proche aussi du fantastique, c'est trop...
Non, je comprends. Moi, en plus, En plus, bon, il y a beaucoup de monde qui ont lâché la série il y a deux, trois saisons, je sais pas, parce que et c'est vrai, ça devient répétitif. Moi, j'ai envie de lui donner. Je sais pas si c'est la dernière saison. Il me semble que c'est la dernière saison, peut-être. J'ai envie de lui donner encore une chance. Je continue. Je m'en lasse pas. Je me suis attaché au personnage depuis le temps, puis c'est. J'aime ça les retrouver, puis c'est voir où ça s'en va. Il y a des bons épisodes, il y a des épisodes très mauvais. Il y a, tu sais, il y a des bonnes choses. J'ai du mal à m'en détacher. Je sais pas, c'est peut-être une drogue.
Il y a tout ce moment qu'on se détache des séries qu'on aime beaucoup. Comme, tu sais, par exemple, moi, j'aimais bien Dexter, mais à un moment donné, j'ai pu, tu sais, je veux dire, la saison 3 était magnifique. Puis après ça, à un moment donné, c'était toujours la même histoire. Puis j'ai pas écouté les trois dernières saisons, je pense, ou les deux dernières saisons. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, tu te détaches. Donc peut-être que toi, t'es pas rendu là à ce moment où est-ce que tu dis, bon, j'ai fait le tour, ils vont pas améliorer le truc.
Non, mais ça m'est arrivé de m'ennuyer pendant des saisons aussi, là. Mais bon, j'ai continué. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Tu sais, c'est con de s'arrêter là. Puis, on verra bien. Peut-être je vais être complètement déçu. Et
mais
peut-être
est-ce qu'il y a une fin prévue? Parce que avec,
il me semble que oui.
Avec Breaking Bad, on savait que c'est la dernière saison, mais qui était excellente en passant. Là, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'on a tous
écouté. On ne peut pas comparer avec Breaking Bad.
On a tous comme... t'es content? Ben, tu sais, il y a des gens qui sont des détracteurs, mais en général, on était content de cette dernière saison-là. Mais
je sais qu'il y a des acteurs, principaux, là, des têtes d'affiche qui quittent la série. Fait que, à mon avis, ça s'en va vers la fin. Ça m'étonnerait qu'il continue encore longtemps. Surtout qu'il y a une espèce de... Il y a une espèce de ras-le-bol, tu sais. Je veux dire, tu sais, le monde commence à se lasser un peu. Je pense que le phénomène du zombie, là, c'est gentiment en train de se tasser, là.
D'accord.
Ou alors, on regarde plutôt du côté des White Walkers de Game of Thrones, tu sais, dans ce genre-là de zombie, là. Parce que c'est plus fantasy, plus si, plus ça. Ça, tout le monde l'attend avec impatience.
Ça, c'est clairement de la fantasy,
hein. Ça. Ouais, carrément, là, c'est clair. Ouais.
Alors, t'as-tu une plug plus science-fiction que je vais critiquer puis que je vais être d'accord avec toi?
Non, j'ai pas d'autres plugs plus science-fiction. J'en aurais d'autres, mais qui sont pas de la science-fiction, donc on va laisser ça pour un autre podcast.
Ouais, mais moi, c'est ça. Comme moi, en ce moment, j'aimerais bien parler de choses nouvelles, mais je pense qu'il y a aussi, des fois, c'est des bons moments, puis des fois, de se dire, on va revisiter, parce que je suis aussi en train de... On a parlé d'Ursula Le Guin. Qui était qui est morte il y a pas longtemps, qui est une femme de 50 ans. J'ai commencé à écouter en livre audio un de ses livres, par exemple. Okay. Je me suis dit que, bon, comme je te disais avant le podcast, je vais m'entraîner au gym. Puis pour me motiver à aller au gym, hein, le défi de tout le monde, j'écoute toutes les science-fiction sur Netflix. Par exemple, j'ai jamais écouté la série des Cloverfield.
Non,
ça a juste...
Bon, c'est pas... Il y a trois films, quoi. C'est pas
énorme. Non, mais c'est ça. Mais c'est quand même trois films que tout le monde parle. Ça fait partie un peu de la culture populaire. Bon, en fait, comme geek populaire.
C'est ça. Puis ils valent le coup, le troisième est très discutable, mais les deux premiers valent le coup.
Oui, pareil que les deux sont chouettes. Les deux premiers sont chouettes. Alors, je me suis dit... Bon, j'ai téléchargé
Le troisième, tu sens vraiment le label Cloverfield a été greffé dessus après. C'est que c'était un autre film, puis je crois que d'ailleurs c'est vraiment le cas, que c'était un film que je sais plus quel studio devait sortir, puis qu'ils ont lâché en cours de route, puis qui a été récupéré par une autre boîte.
Mais c'est un peu ça le deuxième aussi.
Et puis ils ont clairement, comme, enfin, à mon avis, tourner un truc spécifiquement pour avoir l'étiquette Cloverfield. Tu sais,
ouais, c'est comme
que sans ça aurait marché. Enfin, ça aurait marché. Ça aurait tenu. Ça vaut ce que ça vaut, là. Ça vaut pas grand-chose. Mais le film, il se tient sans le petit truc Cloverfield. Enfin, tu le verras, tu me diras ce que t'en penses. Tu sais, mais parler, là.
Les deux premiers
valent le coup.
Je vais le voir. Puis, dans le fond, je trouve que c'est chouette de profiter de Netflix puis d'écouter comme des trucs. Donc, j'en ai téléchargé une couple d'autres, dont Paul, que j'aime vraiment pas. Je ne vois pas le finir. J'ai réécouté aussi La Jetée.
Ouais, Paul, c'est une comédie avec Simon Pegg et Nick Frost, qui sont deux super acteurs, mais dans ce film-là, ce film-là est un peu loupé. Hein.
Ouais, mais ça aurait pu être chouette parce que
c'est une comédie étrange.
Ça avait un petit côté. Ça aurait pu avoir le ton de Alf, l'extraterrestre, tu te rappelles?
Ouais, Alf,
qui était drôle parce que dans le fond, Alf, c'était juste un petit sitcom sympathique. Puis il y avait toujours le tu sais, genre, il y a le moment qui mange des chats, il y a le moment qui mange des oiseaux. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme le même personnage un petit peu avec une voix.
Sauf
que
là, c'est pas drôle.
Mais c'est pas drôle. Alf, tout ce qui était drôle dans Alf, c'est comme raté là-dedans. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu dans le ton.
Ouais,
tu sais.
C'est qui? C'est Seth Rogen qui fait la voix de c'est ça? La voix de l'extraterrestre?
Ah, je sais pas.
C'est Seth Rogen?
J'ai pas porté attention.
Il me semble que oui, ça se peut. Enfin, bref.
Puis, Il y a oui, c'est ça, comme je disais, j'ai réécouté aussi La Jetée récemment, tu sais, comme je revisite des classiques
de Chris Marker. Ouais.
Ouais, parce que
moi je l'avais revu à l'époque, on avait fait l'épisode de 12 Monkeys.
Écoute, moi ça m'a frappé parce que je sais qu'on l'avait on en avait parlé à 12 Monkeys, mais ouais. C'est fou comment c'est une copie de complète
ouais, vraiment,
de
12 Monkeys. Inspiré, là.
C'est une copie de 12 Monkeys, La Jetée. Non, c'est le contraire. Puis j'ai trouvé ça chouette parce que je me dis, moi j'adore Chris Marker, je vous dis là, c'est comme une sorte de cinéaste un peu expérimental slash documentariste français qu'on est un peu forcé d'écouter dans nos cours de cinéma. Puis, je veux dire...
C'est fascinant, là.
Mais je ne sais pas pourquoi tout ce qu'il fait, je trouve ça charmant. Puis La Jetée, c'est fou. C'est super simple comme film, mais l'idée est tellement bonne. Mm-hmm. Puis, en tout cas, donc, ça m'a rappelé 12 Monkeys et Terry Gilliam. D'ailleurs, qu'on devrait parler parce que... Oh, Dark City, Terry Gilliam, il y a comme une parenté.
Ouais, il y a comme une parenté, clairement.
Quand même.
Ben, allons-y, parlons-en de Dark City. Alors, un petit résumé
rentrons dans le vif du sujet.
Un petit résumé pour commencer.
Oh, non, avant que tu commences, je voulais dire merci à tous ceux qui ont écrit que je parlais pas trop. Je sais que vous mentez gentiment, mais ça me fait plaisir comme que des gens qui nous écoutent me disent que j'étais quand même intéressante puis sympathique.
Ben ouais, c'est vrai.
Je vais continuer à faire des efforts pour être plus à l'écoute, surtout quand je vais avoir des invités. Nick, ça le dérange pas trop parce qu'il est habitué.
J'ai pas de problème. On ferait pas de podcast ensemble.
Tu peux me donner des coups de pied sur la table si tu veux parler, mais je parle trop. Mais j'ai trouvé ça bien gentil et bien chaud.
Cool. Bien, alors petit résumé de Dark City. Victime d'un étrange malaise, John Murdock reprend péniblement ses esprits pour découvrir qu'il a perdu la mémoire et est recherché pour meurtre. Alors qu'il essaie de reconstruire son passé, il découvre un monde souterrain dont les étranges hôtes possèdent le pouvoir d'endormir la ville entière ainsi que ses habitants pour pouvoir les altérer à leur guise. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai écrit, si ça représente bien le film.
Les altérer, ben altérer leur mémoire.
Ah, ouais, altérer, en tout cas, ouais, altérer leur perception de la réalité. Oui, ouais, c'est ça.
Puis leur rôle, en fait, qui ils sont.
Voilà, c'est ça. Mm. Quand est-ce que tu as vu ce film pour la première fois, toi?
Au cinéma, je crois. Ouais. Hein. Je suis vraiment pas mal sûre de l'avoir vu au cinéma. Ça aurait pu être en DVD. T'sais, à l'époque, il y a comme un moment flou là, dans nos souvenirs où est-ce qu'on allait beaucoup au cinéma. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne fait plus? Ben, malheureusement.
Ouais.
On aime encore ça, mais à l'époque, il y avait comme une sortie, les gens allaient au cinéma ensemble, puis bon, ben, j'étais à l'université.
Petite parenthèse.
Encore.
L'autre soir, j'étais avec mon ami Sid, on est allé voir le Halloween original de Carpenter au cinéma. Il y avait la ressortie chouette. Pour le 40e anniversaire, copie digitale magnifique.
Excellent.
De Halloween, c'était super cool. Voilà, bref.
Mais c'est des bons souvenirs que j'ai de ce temps-là parce qu'on allait au cinéma. Donc, j'ai comme un bon feeling. Je sais que j'avais vu le deuxième The Crow, donc le deuxième au cinéma, puis c'est un peu à la même époque. C'est Matrix, je l'ai vu au cinéma, ça c'est sûr.
Le deuxième, qu'est-ce que tu veux dire par le deuxième?
Il y a le premier avec Brandon Lee, puis il y a le deuxième avec, Perez. Vincent Perez.
Mm-hmm. OK. Crow 2, c'est venu avant... c'était lui qui avait fait le 2, c'était pas lui qui avait fait le 2. Non, lui, il avait fait le premier.
Non, mais il était bon, le 2 aussi. Ben, il était bon. Non, il était pas bon.
Ouais, j'avais bien aimé le premier, beaucoup.
Ouais.
Puis il y avait déjà ce sens esthétique...
Oui. Non, The Crow 1 était... Écoute, c'était la naissance de cette espèce de mode gothique-là, tu sais. Je veux dire, ouais. C'était les alternatives, tu sais. Donc, moi, j'étais full là-dedans, là. J'avais plein d'amis alternatifs et tout. Donc, ça faisait partie de notre imaginaire. On parle avant Tim Burton, là, où on est à peu près en même temps, Batman.
On est à peu près en même temps. Moi, j'ai pensé aussi à Batman, à pas mal des films de Batman, mais je dis, le premier Batman, c'était en 89
Ah, OK. Donc, c'est quand même...
Puis le deuxième, c'était en 92, peut-être, un truc comme ça.
Parce que Dark City, c'est 95?
Dark City, c'est 98.
98?
Ouais. 98, Dark City, 99, Matrix. Et puis, mais avant ça, on a eu donc le The Crow, c'était 94. Mm-hmm. Ouais, il y a eu les films de Burton puis ceux de Schumacher après, parce que Schumacher avait gardé un peu l'esthétique des films de Burton à sa sauce là, avec les néons partout et tout, mais je veux dire le côté un peu gothique qui était toujours.
Burton était déjà là. Il y avait l'influence de Burton.
Oui, il y a La Cité des Enfants Perdus aussi de Jeunet et Caro là.
Qui est directement influencé. Jeunet et Caro sont influencés de Gillian, tu sais. Puis ça fait partie des influences
Mais toi, mais Guillaume, tu vois, Brésil, c'est 80 quelque chose, là, 88, je sais plus, 86, 88.
Moi, ça, c'était avant tout ce monde-là.
Brésil, ouais, premier, c'était avant. Ouais.
C'est,
12 Monkeys, c'était dans les années 90. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas la date sous les yeux, là.
12 Monkeys, oui, c'est les années 90.
Mais tu vois, la Cité des Enfants Perdus, la Cité des Enfants Perdus, c'est 95.
98, 12 Monkeys, donc c'est en même temps que... C'est la même année que Dark City.
OK.
Ah, c'est drôle, j'avais en tête que Dark City, c'était plus vieux dans mon imaginaire que ça. 98.
Non, moi, je pensais que 12 Monkeys, c'était un peu plus vieux.
Bon, mais
je pensais,
ouais, j'avais quand même 25 ans, puis c'est quand même encore l'époque des DVD, puis des... bon, pas des VHS, des DVD.
Hein? Il y en avait encore des VHS.
Oui, mais en 98, on était passé au DVD.
Il y en avait, oui, on était déjà passé au DVD, mais je veux dire, t'en trouvais toujours là.
Oui, bien sûr.
J'en avais encore.
Mais oui, on avait toute notre collection. Parce
j'avais
qu'on
toujours
a...
mon...
Pensez qu'on allait se débarrasser de notre collection de VHS parce qu'il y avait les DVD. Non, on faisait juste une nouvelle collection de DVD, la collection de VHS. Puis, donc, bref, à l'époque, donc, tu me demandais quand est-ce que j'avais vu ça. Donc, écoute, j'arrive pas à me rappeler si je l'ai vu au cinéma, mais je me rappelle là, mon impression de l'époque que c'était un film... ça m'avait vraiment marqué, ce film-là. Je l'ai vu plusieurs fois à l'époque. Tu sais, je l'ai revu une couple de fois, je pense, avec des amis. Donc, c'est pour ça que je l'ai probablement vu au cinéma et revu en DVD. C'était pas le film... C'était un film que... Je sais pas comment dire, tu sais. Il y avait un petit truc qui m'énervait dans ce film-là, mais j'adorais le film, tu sais. Je veux dire, j'adorais toute cette espèce de petite folie-là, là, les maisons, le décor qui se construit, l'idée des gens qui sont comme dans une espèce de ville. La fin m'avait vraiment fascinée, que c'est pas une vraie ville. J'adore ce genre d'histoire-là où est-ce que c'est comme... t'arrives à la fin, puis t'es comme la réalité n'est pas du tout celle que tu penses. C'est comme c'est une des autres des raisons pourquoi j'avais aimé The Matrix. On va en parler de The Matrix, on n'a pas le choix parce que il y a tellement
de
similitudes. Donc, spoiler for The Matrix. Hein, ceux qui n'auraient pas vu The Matrix, là, comme, ben, déjà, posez-vous des questions. Si vous écoutez ce podcast, si vous n'avez pas vu The Matrix, mais courez le voir.
Et puis écoutez notre prochain épisode de The Matrix.
Et ensuite, écoutez le prochain épisode. mais donc, bref, ça vient me chercher. Là, évidemment, on en a souvent parlé. Un autre film du genre Usual Suspect là, qui était un peu de la même époque, ces trucs-là qui t'amènent dans une autre réalité, Fight Club et tout. Est-ce que ta perception, c'était vraiment à la mode hein, à l'époque, ce truc-là? Et je trouve que Dark City le faisait dans le style de science-fiction, puis le mélange aussi avec le film noir, qui est un mélange que j'adore, le cinéma noir, j'adore, donc je pouvais pas aimer ce film-là.
95, Usual Suspect.
Ah ouais. Mais tu vois, c'est tout dans
l'air du
deuxième
temps,
décennie
hein,
de 90, il y avait plein de films comme ça. À la limite, 12 Monkeys, c'est la même chose. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est... Tu sais, je veux dire, c'est un personnage qui s'imagine... En fait, c'est ce qui est intéressant avec 12 Monkeys, c'est que c'est vrai. Tu sais, il se rend compte que c'est vrai, mais tu es tout le temps dans le doute.
Il y avait Strange Days aussi, t'avais vu ça, de Catherine Bigelow?
Oui, je l'ai vu.
C'était en 95.
Mais c'est-tu la même... Ça, c'est différent. Il y a
Ben, c'est des... Ça parle d'un système qui te permet d'enregistrer des pensées ou des expériences. C'est un peu à la Brainstorm, on avait fait le film Brainstorm.
Oui, c'est plus à la Brainstorm, Mais c'était un grand film de science-fiction, ça.
Ouais. Et puis, il y avait... un petit quelque chose dans l'histoire de la manipulation des souvenirs. Il y a un peu de ça. Comme tu dis, c'était un peu dans l'air du temps. Là,
ouais, c'était comme à la mode.
Je pense que peut-être l'arrivée de l'an 2000, l'approche de l'an 2000, puis l'avancée des ordinateurs, quand on a approché... arrivé à 98, là, il y avait peut-être la peur du bug de l'an 2000. Tu sais, le fameux bug de l'an 2000 qu'il n'y a jamais eu. Là, il y avait peut-être cette espèce de... peur de quelque chose à voir avec, tu sais, le réveil des machines.
Je sais pas, peut-être que c'était l'idée du changement, c'est qu'on passait à autre chose. Donc, ouais. Cette idée-là de qu'est-ce qu'on prend pour acquis. Écoute, on va en parler, on va peut-être geeker là-dessus, mais qu'est-ce qui fait
que
juste
ça
avant l'an 2000,
le bug de l'an 2000,
juste avant l'an 2000, il y avait cette fascination-là pour les... Pour jouer, en fait, avec le spectateur, puis lui dire, regarde, tu vois une réalité, tu penses que c'est ça, et ha, ha, ha. Non, on tourne de bord, puis on flippe la page, puis là, t'es comme, c'est plus du tout ça, tu sais. Puis des films comme ça, est-ce qu'on en aurait des plus récents qui jouent sur cet aspect-là, qui auraient cette espèce de côté-là? T'écoutes le film, puis tout le long, tu penses voir quelque chose, puis t'arrives à la fin, là, on va avoir un truc super évident. Ben, Westworld, un petit peu ça, mais c'est pas ça, Westworld. Tu sais, Westworld, c'est une question de sur quelle perception tu joues, etc.
Ben, c'est plus dans... C'est plus la recherche de l'humanité,
ouais,
etc. C'est plus, ça va plus dans ce sens-là.
Oui, c'est ça. C'est plus dans l'intelligence artificielle. C'est quoi d'être un être...
Ouais.
Ça veut dire quoi
c'est
être
quoi,
un être...
C'est quoi l'humanité versus, versus l'intelligence
qui est
artificielle.
Qui une préoccupation. Mais c'est vrai qu'on a plus ça. Ces films. Ben, il y en a sûrement, là, mais pas t'sais, un grand film. Là, un film qu'on... Parce qu'il y a toujours des copycats, là, qui, des gens qui suivent.
Là, comme Inception, il n'y a pas...
Mais même Inception, c'est pas... c'est comme tu es dans des différents niveaux de perception. D'ailleurs, Inception a été comme...
Mais je veux dire,
c'est inspiré de...
En tant que spectateur, oui.
Nolan était très, a été très...
Certainement, oui.
Inspiré par Dark City. Je pense qu'il le dit, là. Je pense que ça fait partie de ses films de référence. Mais reste
ben,
dans...
Ben, juste le truc de la cité qui se déforme.
Oui,
là,
c'est ça, exactement.
C'est comme
exactement.
Ça, là, c'est ça, ça, sort
c'est
ça. Ça
c'est exactement ça, oui, ouais. Oui. C'est pour ça que je cherchais dans l'histoire, mais
il y a la même chose dans Doctor Strange aussi, chez Marvel, tu sais... Hein.
Qui manipule
la perception de la réalité, etc.
C'est
dans Doctor Strange, il y a ça aussi.
Oui,
c'est très Inception, c'est très ça.
Oui.
Bon, ça parle magie, etc., etc. Mais je veux dire, il y a ce même genre d'imagerie, là, tu sais, un peu.
Mais j'arrive pas à me voir un film où est-ce qu'on est vraiment dans cette espèce de moment-là, où est-ce que...
Non.
T'arrives, puis t'as un choc, puis t'es comme genre, oh, oh. Les choses ne sont pas du tout ce que moi, spectateur, je pensais.
Ouais.
On va peut-être en trouver, mais toi, Nick,
mais moi,
est-ce que t'as vu ça?
Moi, j'ai vu le film au cinéma aussi. Donc, c'était en Suisse à l'époque, là. J'ai vu ça au cinéma. Et je me rappelle que je savais pas trop quoi en penser du film à la fin. J'avais aimé ça, mais je savais pas trop quoi en penser. Peut-être parce que c'était quelque chose de plus froid et plus... moins... c'était pas conventionnel, enfin ça sortait un peu des normes, puis je savais peut-être pas trop comment l'interpréter à ce moment-là. Je l'ai revu en DVD par la suite, mais enfin je pense une fois, mais là de le revoir là, j'ai vraiment adoré ça. Je me dis que c'est vraiment un film qui est... bon, je sais qu'il est très aimé, c'est un film qui est très aimé,
c'est un film culte, hein,
ouais, c'est un film culte,
un petit film culte, c'est pas un film culte comme
ouais c'est ça, mais je veux dire il mérite autant de succès qu'un Matrix. C'est sûr que Matrix il a ce côté beaucoup plus mainstream dans le sens où c'est un film d'action, tu sais.
Mais Dark City aussi, c'est un film d'action.
Ouais, mais c'est une action d'un genre différent. C'est plus... comment dire? C'est un...
OK, il y a moins la maîtrise kung-fu que c'est moins virtuose.
C'est un autre mélange de genre. C'est une esthétique différente. C'est une esthétique qu'on connaissait déjà peut-être un peu du fait que, comme tu dis, c'était plus comme espèce de gothique. Rétro-futuriste, là, tu sais, où tu sais pas trop dans quelle époque.
Pas cyberpunk, steampunk.
Ouais, plus steampunk, ouais.
Ouais, définitivement steampunk.
Cyberpunk, c'est Matrix.
Non, c'est ça, je fais.
Mais ouais, dans steampunk, ouais, absolument.
Je mélange les deux tout le temps, excusez-moi.
Ouais, c'est ça, donc c'était une esthétique qu'on connaissait déjà un petit peu plus à cause des Batman, à cause de tout ça, tu sais, ce côté un peu gothique, machin, The Crow, tout ça. Donc c'était moins, il y avait un truc moins innovant mais malgré tout, si vous entendez un bruit bizarre derrière moi, c'est mon frigo qui grogne parce que j'ai oublié de le débrancher.
Le frigo est pas d'accord avec ce qu'on
frigo,
dit.
Il fait...
Non mais je suis pas d'accord non plus un petit peu avec ce que tu dis, donc je fais écho au frigo. C'est comme tu dis que c'est pas innovant. Moi je crois que Dark City était innovant.
Je pense qu'à l'époque je l'ai pas perçu comme je l'ai perçu là maintenant.
Ah
là,
oui, ok, c'est... dans ce sens-là. Parce qu'il s'incarne dans cette époque-là. Puis j'ai un petit malaise à le comparer à The Matrix parce que c'est comme deux petits bijoux, tu sais, qui sont arrivés en même temps, qui ont comme une semblante similitude, mais d'une certaine façon, ils décrivent deux idées quand même assez différentes, tu sais.
Ouais, clairement.
Tu sais, je veux dire, comme, dans The Matrix, c'est comme genre, tu vis dans un monde autre, tandis que dans Dark City, c'est que c'est l'idée que tu ne sais pas... Tu sais, dans The Matrix, les gens savent c'est quoi la réalité. C'est la réalité qui est la fausse réalité, puis elle change pas, c'est la réalité. Dans The Matrix, il présente dans The Dark City, il présente comme cette idée-là que la réalité, c'est ta mémoire, en fait, tu sais. Puis elle peut complètement changer, c'est un peu une métaphore sur...
C'est plutôt qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'était ta...
souvenirs
qui te définissent,
oui.
Ou autre chose?
C'est ça. Puis dans The Matrix, il y a quand même...
Ce que je cherche d'ailleurs.
Dans The Matrix, il y a deux réalités. La réalité simulée puis la vraie réalité. Dans Dark City, il n'y a pas de réalité. tu sais. Mm. Puis on le sait jamais, même à la fin, il n'y a pas de résolution. Anyway. Est-ce que tu avais fini de parler de parce que là, j'étais déjà partie dans mes sujets. Je voulais savoir, est-ce que tu avais d'autres choses à dire
de mon expérience à l'époque? Oui. Écoute, je pense que c'est pas mal ça. J'ai vraiment, c'est à le redécouvrir là, maintenant. Là, en fait, j'ai eu du plaisir à le redécouvrir parce que je pense que j'ai découvert plein de qualités à ce film que j'avais pas, soit pas comprise à l'époque, soit ça m'avait juste moins parlé. Enfin, je veux dire, tu sais.
As-tu vu le Director Scott ou le.
Non, alors j'ai vu la version.
Originale.
La version cinéma de l'époque.
Moi, j'ai vu le Director Scott.
Ah, t'as vu le Director Scott?
Oui, j'ai cru.
Je sais plus ou moins c'est quoi la différence avec le Director Scott.
Moi, je sais. C'est qu'il a enlevé la narration du début.
La narration du début, ouais. Parce que d'ailleurs, en regardant ça, là, maintenant, j'ai trouvé dommage d'avoir cette narration au début parce que quelque part, il te vend un peu le punch. Ouais. Ben, pas
c'est
le punch
comme
final,
c'est comme
mais. Mais ouais, c'est vrai. C'est ça. Cette espèce de manie du studio qui arrive, puis c'est trop compliqué, il faut faire une narration au début parce que personne ne va rien comprendre. Non, justement.
Ben ouais, c'est super facile à comprendre.
Tu te serais réveillé avec lui, là, où tu découvres ce gars, il est dans une
bizarre. La narration
bizarre.
Est pendant, qu'il se réveille. Elle est où, la narration, d'ailleurs?
Elle est au tout début sur un fond noir.
Ah, OK.
Puis après, oui, où tu commences à voir la ville, etc. Puis après, ouais, tu commences avec lui.
C'est ça, parce que dans le film...
Tout ce début où il n'y a pas une parole, là où lui, il est tout seul, il se réveille dans le bain, là, dans l'eau, et il y a une femme morte à côté de lui, etc. Mm. Ça. Tu commences le film là, t'es comme lui, finalement. Tu sais, tu découvres tout ça en même temps que lui, puis t'es là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus qui est là. Je trouve qu'il est en plus...
Dans le film original...
Il est super expressif. Il a un visage super expressif. T'as l'impression de voir toutes ces questions dans ses yeux, quoi. T'sais, c'est comme... Mm. Je le trouve très bon, là. Il n'y a pas une parole au début, là. Et tu comprends tout ce qu'il vit à ce moment-là, sans un mot, c'est vachement bien.
Oh,
c'est un beau... il est très bon, lui, je trouve.
Ah oui, il est magnifique.
Rufus Sewell.
Un acteur qu'on n'a pas vu beaucoup, mais là, qui joue
Je me rappelle l'avoir vu plusieurs fois à l'époque, mais je ne l'ai pas... Depuis...
Il est dans The Man in the High Castle. Il est très bon dans The Man. Et d'ailleurs, plug, trop tard, mais la saison 3 de Men in the High Castle
est sur Amazon.
Et je pense que sur Amazon, je vois plein de pubs de ça, puis moi qui pue Amazon Prime, là, je suis comme, faut que
tu viennes chez moi.
Ouais, on l'écoutera ensemble.
Moi, j'ai toujours mon Prime.
On pourra se faire une écoute. Tu les as vus, les deux?
Non, j'ai rien vu.
Ah, écoute les deux autres, puis on écoutera la troisième ensemble, puis on fera un podcast dessus. C'est quand même bon. Je l'aime bien, de Men in the High Castle. Il y a quelque chose de chouette dedans.
C'est cool.
Mais il est excellent. Super. D'ailleurs, c'est probablement le meilleur de tous les comédiens et les personnages.
Ouais,
Men in the High Castle,
bon.
C'est mon préféré.
C'est un acteur anglais. Très bien.
Ah oui, mais la distribution dans
Dark City.
Dans Dark City était impeccable. Tu sais, William Hurt, c'est un grand acteur. Jennifer Connelly, qui était...
Elle
joue toujours dans des films vraiment bons. Elle a vraiment comme un bon casque. Puis Kiefer Sutherland, que beaucoup de gens aiment. Moi, j'avoue que j'ai un peu de misère avec lui. C'est le personnage que je suis pas sûre. Je trouve
dans ce film-là, tu veux
ouais,
dire?
Oui, dans ce film-là. En général, j'ai pas d'opinion sur Kiefer Sutherland.
Moi, je l'aime bien en général, mais, dans ce film-là, il y a un petit côté surjeu que je suis pas sûr finalement. Ce qu'il fait avec son personnage qui boite, qui parle, tu sais.
On a l'impression de voir Doctor Strangelove, là, tu sais, un petit peu, là. Tu sais, genre, il y a comme, tu sais, mais dans Doctor Strangelove, c'est une comédie.
C'est une comédie, ouais.
Exactement, tu sais, puis c'est l'autre acteur. Je suis comme. Mais moi, j'ai vu, il y a des gens qui disent que c'est extraordinaire, il est tellement bon, c'est le meilleur. Puis moi, il y a comme un feeling que. Non, je le remarque.
Ouais, moi, c'est pas sa meilleure performance pour moi. Certains le disent, mais moi, non.
Ouais, c'est drôle. Puis moi, je trouve que c'est même à la limite un point faible du film. C'est bizarre. Hein? On va peut-être se faire chicaner puis se faire dire qu'on mangignard est extraordinaire. Mais pour moi, comme quand je rentre dans. Tu sais, il faut que je croie au personnage. Par contre, le personnage de William Hurt, du détective, je le trouve parfait.
Ouais, il est extra.
Parce que je trouve que William, justement, il ne surjoue pas. Puis il y a ces petits moments-là, tu sais, comme quand il lui dit, dis-moi, oui, Shelby, je peux te le dire. Puis là, tu le vois, puis il est comme. Tu sais, il ignore. Il est comme parfait pour montrer à quel point ces gens-là sont tellement habitués d'être dans cette espèce de brouillard-là, là, qu'il cherche, dis-moi, oui, je peux te le dire, puis il ne trouve pas. Puis il est. Tu sais, il le fait tout en subtilité, là. C'est superbe, là, tu sais. Et puis là-dedans, il est toujours un petit peu, tu sais jamais sur quel part il est. Il incarne très, très bien le rôle du détective du film noir, tu sais, qu'on sait, tu sais, qu'il va se retrouver à manipuler un peu, hein, l'intrigue. Il est comme manipulé, puis il essaie de trouver puis de comprendre, puis il tombe pas facilement dans le piège, mais il résout pas rien, tu sais.
C'est marrant ce mélange de genre aussi, d'avoir choisi le... Ça, je trouve que ça marche très, très bien, là, le film noir.
C'était supposé être une histoire de détective, hein, d'ailleurs. Ça l'a évolué. Il a shifté l'intérêt sur le personnage de John Murdock. Mais au départ, c'était supposé être l'inspecteur...
C'était l'inspecteur qui découvrait tout ça,
C'était lui le personnage principal. C'est vraiment le classique film noir.
Ouais.
Il s'est inspiré du Faucon Maltais. Avec
Maltese Falcon.
Avec Humphrey Bogart.
Ouais.
Puis, donc,
c'est une belle ambiance, film noir. Là. J'aime bien ça. En même temps, tu te dis, mais c'est bizarre, c'est un peu anachronique. T'sais. Puis après, tu comprends pourquoi, là, parce qu'après, ils le disent eux-mêmes. Ils ont comme...
Mélanger.
Ils ont comme mélangé différentes époques. T'sais, ils ont pris des éléments de plein d'époques différentes, donc d'où les anachronismes, et d'où la musique qui n'a rien à voir avec l'époque. Et puis, certains éléments de décor ou certaines choses. Ouais, il y avait plein de choix comme ça. Au début, tu es là, wow, c'est quoi ce truc? T'sais? Puis, quand tu commences à découvrir de quoi. C'est pour ça que je trouve dommage que dès le début, tu aies cette narration qui te vend un peu le truc. Quoi. Bon, c'est sûr que ça fait beaucoup de. Beaucoup de reveal l'un après l'autre là à la fin parce que tu sais genre d'abord t'as le reveal que ben il y a une espèce de société sous terre là de gens bizarres.
Ils le disent dans la narration.
Ouais, ça commence avec ça.
Ben,
au début c'est first there was darkness then came the strangers. Il dit pas c'est qui les strangers. C'est après toi tu comprends ok c'est des extraterrestres. Mais je veux dire tu sais, il dit beaucoup de trucs c'est dommage, quoi.
Ben oui, c'est super dommage parce qu'au début, à la limite, on pense qu'on est dans un vrai univers, là. Tu sais, on n'est pas des experts des décors, des costumes. On pense qu'on est dans une vraie histoire.
C'est pour ça que j'aimerais bien voir le Director Scott pour voir comment fonctionne le début, en fait, sans la narration. Je pense que ça va être super bien. Tu rentres dans le truc avec beaucoup moins d'informations, puis tu découvres en même temps que John Murdock tout ce qui se passe, quoi, finalement. Tu sais, puis la surprise est d'autant plus grosse.
Puis moi, j'ai adoré aussi, parce que là, on parlait des acteurs, mais j'ai adoré qu'il y ait Richard O'Brien.
Oh, Rocky
Horror Picture
Show! Riff-raff!
Puis le pire, c'est que les Strangers ont été, entre autres, inspirés de son personnage dans le Rocky Horror Picture Show. Il faisait pas d'inspiration. Hein? Et puis, évidemment, dans les inspirations pour les Strangers, Nosferatu.
Ouais, aussi, bah oui.
Tu les vois partout en espèce d'ombre, tu sais, comme la façon dont ils sont faits avec cette espèce des trucs qui vont leur vont jusqu'aux
pieds,
de longs manteaux.
Puis le col qui remonte.
Le col,
ça,
la façon dont ils tiennent, les têtes rasées, le côté blanc, catabrule. Puis Nosferatu, c'est un de mes films préférés, là. Je veux dire, je l'ai vu plein de fois. C'est magnifique. Bon, hein. Donc, l'expressionniste allemand, pour plugger que j'ai fait un peu d'études cinématographistes, ça doit être le néo-expressionniste allemand. L'expressionniste allemand. Plus tard, ils ont dû en avoir un néo, il y en a toujours.
Ouais.
Mais bref, M le maudit, ouais. Métropolis, l'espèce de cité et tout.
C'est Roger Ebert, d'ailleurs, mettait ce film, a fait une critique excellente de ce film-là.
Ah, oui.
Il a même fait un commentaire pour sur le DVD
je veux dire, j'ai pas eu le temps de tout l'écouter parce qu'on s'est décidé un peu dans la minute, mais j'ai comme écouté le documentaire, puis on le voyait qui était dedans, mais...
Ouais, et puis pour lui, Dark City, c'est au même niveau, il le met au même niveau que Metropolis, quoi. C'est comme...
Pour lui, il a vraiment déliré sur Dark City. Ouais. Mais c'est sûr que Dark City, pour quelqu'un comme lui, qui connaît tout le cinéma...
Ah, c'est bourré de références.
C'est extraordinaire, parce que c'est ça, c'est bourré de références, puis en plus, c'est intelligent, parce que là, le truc que je voulais dire aussi sur le thème, c'est qu'il... Ils disent que ça réfère, là, j'ai vraiment trouvé ça super cool, ça réfère à un concept qui s'appelle, en anglais, ils disent « last Thursdayism ».
Last Thursdayism ». Oui.
le dernier jeudiisme. Puis en fait, c'est quand tu lis ça, c'est quoi je dis, c'était comme genre « ah ouais, c'est tout à fait le film ». Puis après ça, t'as de la misère à dormir pour les prochains jours. C'est comme, en gros, l'idée, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si...
Quand le monde a commencé.
Quand le monde a vraiment commencé, parce que si tu penses à une sorte d'intelligence qui fait une simulation et tout, comme dans Dark City... Il peut avoir créé le monde pour nous faire croire qu'il est très, très vieux, tu sais. Mettons qu'on a un jeu d'ordinateur, là, vraiment sophistiqué, puis qui vient d'appuyer sur Start, tu sais. Ben, il va avoir créé les intelligences artificielles qui seraient nous, avec toute la mémoire du passé. Donc, nous, on aurait... Tu sais, c'est quoi l'expérience? C'est quoi? Maintenant, j'ai vraiment le souvenir que ça, c'est arrivé. Puis hier, j'ai vécu ça, c'est arrivé hier, concrètement.
En fait, tu n'as aucune idée.
Mais tu n'as aucune idée. Mais donc,
t'arrives à placer les choses dans le temps.
Parce que c'est ça, la mémoire.
Par rapport à ta mémoire, ouais, t'as aucun moyen.
Ta mémoire te donne l'impression que ça s'est vraiment passé, puis que toi, tu t'as commencé il y a plus tôt. Puis c'est vraiment ça, Dark City.
C'est du beau mindfuck.
Mais oui, puis c'est intelligent. C'est pour ça qu'un gars comme.
Un critique comme Roger Ebert,
lui, il trippe parce qu'il voit une espèce d'amalgame de tous les films qu'il aime avec quelque chose d'intelligent. Puis en plus, c'est une science-fiction qui crée quelque chose un petit peu funky, là, tu sais. Ah, c'était. Puis moi, je suis contente que lui ait défendu puis aimé ce film-là à fond parce que. Il le mérite, là, le film. C'est une belle hommage pour.
N'avais-tu pas chier sur Blade Runner, lui? Non.
Non.
Roger Ebert? Non, je sais pas. Non, non. Je me rappelle plus, il a mis un film ou deux sur lesquels. Tu sais, qui sont devenus des films cultes ou des films importants, tu sais.
Ah, oui,
sur lesquels il avait chier. Bon, personne à la. Personne à.
Ouais, il peut pas se.
À la science infuse, raison, là.
Tu sais, c'était peut-être chicané avec sa femme le matin, puis. arrive au cinéma ou
mais,
whatever.
En tout cas, ouais. Mais est-ce que. Parce que...
Mais donc, c'est profond quand même, là, cette espèce de c'est quoi être un être humain par rapport à ça? Bon, ça t'amène un petit peu qu'éteint, genre, c'est l'âme et tout, non, comme il dit, tu comprends pas, tu cherches dans la tête, puis dans le fond, c'est pas là qu'il faut chercher, c'est dans le cœur, hein? Mais bon, ça va, là, tu sais, c'est subtil, là, c'est pas trop appuyé, puis tout l'ensemble
ouais,
du
c'est juste
truc.
Une phrase, là, ils vont pas chercher plus
ouais,
loin.
Ouais, c'est ça, mais tout l'ensemble du film, c'est
mais j'aime bien le fait que les extraterrestres cherchent c'est quoi l'âme, tu sais, ils cherchent qu'est-ce qui fait l'âme.
C'est quoi l'être
est-ce
humain?
Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de survivre, parce que donc, ils sont en extinction?
C'est un peu
là,
flou,
sont...
là, ça, cette partie-là, là, c'est pas ouais, clair, le... qu'est-ce qu'ils espèrent de tirer de tout
ouais,
ça?
C'est ça, qu'est-ce qu'ils espèrent, ouais, ça c'est vrai, il n'y a pas d'explication à ce niveau-là, c'est genre, on sait juste que leur race est en train de s'éteindre.
Ouais.
Et ils se promènent dans l'univers, ou en tout cas dans la galaxie, à la recherche d'une solution à ça.
Ouais. Puis ils sont
puis que ça, c'est leur manière de. Enfin, l'expérience qu'ils font avec les humains, là, ils pensent que cette expérience peut leur permettre d'obtenir quelque. Ben, cette âme va leur permettre de survivre, c'est ça.
Ouais, voilà. C'est ça.
C'est juste ça, finalement.
Puis eux autres, ils vivent dans une espèce de société qui est quand même intéressante où est-ce que tout le monde.
partage la même pensée.
Ça, c'était chouette aussi. Ouais. C'est ce moment-là où est-ce que le personnage, ben, qui est justement.
Une conscience
qui est joué,
commune, ouais.
Qui est joué par le.
Ah, le vieux qui.
Non. Je vais trouver son nom, c'est Mr. N. Ah oui, c'est ça, qui est joué par Richard O'Brien de Mr. Hand. Lui, se fait réussir à se faire mettre la pensée collective.
La pensée de John Murdoch.
De John Murdoch. Puis à un moment donné.
Aurait dû être implanté dans John Murdoch, mais que ça n'a pas marché.
Il s'est réveillé avant.
Oui, il s'est réveillé avant, ça n'a pas marché.
Et puis donc, il y a cette pensée-là, puis il y a cette super belle scène-là où est-ce qu'il va sur le quai, puis c'est spooky en même temps parce qu'il est comme. Il est sinistre, tu sais, puis il est avec la femme de
Murdoch.
Emma. Qui est Emma Murdoch, qui est jouée par Jennifer Connelly, qui, elle, elle est là, nostalgique, en se souvenant qu'elle a rencontré son mari là. Puis lui, il vient, il a les mêmes souvenirs. Puis il lui évoque, tu peux-tu imaginer ne pas avoir tes propres pensées? Tu sais, il est comme dans cette espèce de découverte. Donc, tu sais, c'est peut-être ça qu'il cherche aussi. À
ouais.
Si,
ben, ça doit être fascinant pour lui, pour quelqu'un qui
ouais, c'est
comprend
ça.
Pas ce principe-là. Enfin, qui découvre ce principe-là pour la première fois, là, ça doit être fascinant, hein.
J'adore quand les personnages, les vilains ou les personnages comme, qui ont moins d'importance dans son film ont toute une histoire, ont toute une émotion, ont toute une vie. Parce que là, lui, ce qu'il découvre, c'est extraordinaire. C'est un méchant. Au début, il veut juste tuer l'autre. Puis là, tout d'un coup, tu le sens qu'il est comme un petit enfant qui découvre le monde, tu sais. Puis, mais très subtilement, dans quelques mots et tout. Puis bon,
c'est très, très bon.
Il reste un méchant, mais c'est le fun, ça. Donc,
c'est marrant parce que.
Un autre truc, quand tu lis les trivia puis Wikipédia, je sais pas quoi, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré d'un livre. C'est vraiment intéressant. C'est. Je vais aller sur Wikipédia, vous allez trouver le site puis le nom de l'auteur. Mais c'est un schizophrène qui a été interné dans un hôpital psychiatrique.
Qui s'appelle vraiment Schreiber. Enfin, il a le même nom. Il a exactement
le
nom du personnage.
Ah oui, c'est exactement ça. Exactement, c'est ça, Schreiber.
Il s'est directement inspiré de Daniel Schreiber. Daniel, c'est ça? Schreiber, qui...
Oui, Daniel Schreiber, qui a écrit donc un livre. Son livre, c'était pour...
Sur la schizophrénie, qui était lui-même schizophrène. Enfin,
puis ça se voulait un journal pour convaincre de les docteurs qu'ils pouvaient sortir, tu sais.
Ouais.
Donc, moi, j'ai envie de lire ce livre-là. Puis c'est un livre qui a beaucoup influencé Jung puis Freud, tu sais.
OK.
Puis j'ai vraiment, vraiment envie de lire ce livre-là. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, c'est encore là, c'est pour te dire à quel point ce film-là, il est profond parce que, tu sais, Ce genre de livre.
Ouais, t'as allé chercher partout.
Tu sais, c'est des concepts philosophiques, le livre. Tu sais, on est loin de, je sais pas moi, Transformer, par exemple. Juste pour en nommer un. Puis on va voir quand on va parler de Matrix que c'est la même chose. Matrix est inspiré d'ouvrages de réflexion puis de livres, tu sais.
Ouais.
Alors, tu sais, c'est pour ça que je dis c'est deux films forts, tu sais, où est-ce qu'on sent que à travers le cinéma, il essaie de transmettre l'intelligence des livres, quoi.
Ouais. Non, vraiment, c'était une belle... c'est une belle surprise. Enfin, pas une belle surprise, parce que c'était pas une surprise, parce que je connaissais déjà l'histoire, mais je veux dire, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu que ça a été une belle redécouverte.
Moi, je suis d'accord, ça a été une belle redécouverte aussi.
Puis j'ai apprécié le fait que je trouve qu'il y a un rythme très... c'est très fluide comme film, tu sais. Il n'y a aucune longueur, aucun raccourci. Tu sais, t'as l'impression que tout est bien...
Oui, super bien écrit.
C'est bien écrit, que c'est bien rythmé. Que
ça
les choses
écrit, les... hein,
ouais, oui,
plusieurs
ouais.
fois. Là,
les choses arrivent quand elles doivent arriver finalement au bon moment. Tu sais, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'attente trop longue de ça. Tu as l'impression que tu as des informations quand c'est le moment de les avoir. Tu sais, il y a comme une espèce de fluidité qui marche bien, je trouve, dans ce film-là.
Puis,
t'ennuies jamais.
Il y a toujours ce petit... Tu sais, avec la beach...
Shell Beach.
Qui revient tout le temps, ouais, que tu vois partout, c'est les motifs-là. De... Puis là, tu sens, il y a le personnage aussi, dans les personnages secondaires, il y a le détective qui lui pige que quelque chose ne fonctionne pas, puis que ça tourne en rond, tu sais, c'est très riche, là, de...
Le détective qui devient fou, là,
oui,
tu
oui,
veux dire,
qui
là, l'autre,
fou,
ouais, le
oui,
deuxième.
Oui, qui est fou, puis Valensky, qui va jeter devant le métro, comme ça, out of nowhere, I found a way out, tu sais. Tu sais, c'est comme plein de petits moments comme ça, puis de petits personnages, tu sais, qui... Tu sais, le moment où est-ce qu'ils changent tout, quand ils décident de tout changer, là, t'as les deux pauvres dans leur cuisine, puis
qui deviennent
des
bourgeois,
tu sais, comme la table qui se sépare, la reconstruction, tu sais, comme toute la... T'as l'impression que c'est comme des enfants qui s'amusent avec les êtres humains, là, tu sais.
Ben, t'imagines le terrain de jeu, quoi, si tu peux... imprimer les gens, imprint, comme ils disent en anglais, là, imprimer les gens, ou, hein, tu sais, inoculer les gens, là, c'est ça, en fait. C'est comme, tu les inocules comme avec un antivirus, une sorte.
De la mémoire.
Avec une mémoire, avec un passé, tu sais, qu'est-ce que ça va donner, tu sais? Est-ce que c'est sa vraie nature? Est-ce que ça va combler quelque chose? Est-ce que ça va. Tu sais, c'est comme, ça peut aller loin, là, comme. Donc, enfin, je trouve super intéressant l'expérience qu'ils font, tu sais. L'étude qu'ils font du comportement humain, tu sais, qu'est-ce que cette personne va faire si elle est comme ça versus si elle est comme ça. C'est pas mal un fantasme, tu sais, que les gens peuvent avoir, tu sais, genre, tu sais, comment est-ce que je réagirais si j'étais...
Oui, c'est ça, c'est un peu de
si j'étais un milliardaire, puis j'habitais à tel endroit, puis qu'il se passait ça, comment est-ce que je verrais la chose si j'étais un pauvre dans tel pays, tu sais, c'est comme...
Mais les pauvres êtres humains, eux, ils ne savent pas,
ils ne savent pas, ouais, c'est ça.
Un autre truc qui me fascinant dans ce film-là, c'est que c'est tout dans la noirceur.
Ouais, ben ça, c'était...
toute la nuit, là.
Ça, c'est entièrement la nuit. Puis j'aime bien le...
Ça crée une esthétique vraiment intense.
Ouais, puis j'aime bien que les... C'est uniquement les flashbacks qui sont en lumière du jour.
Ouais, puis la dernière scène.
Qui sont pas en studio, tu sais, qui sont en vrai extérieur.
Oui, tout est dans le studio, sinon, ouais.
Ouais. À part les scènes de fin, là, où ils sont sur la jetée, là, sur le ponton, là. Ouais. Tu sens que c'est du faux. Mais sinon, toutes les images de flashback, les photos, tout ça, c'est des vrais extérieurs. En tout cas, ça en a l'air, là. C'est des vrais extérieurs. C'est les seules choses qui sont en lumière. Puis en plus, très bright, c'est genre presque plus bright que la normale, tu sais, je dirais, pour faire vraiment contraste avec la noirceur constante du film. Puis c'est vraiment intéressant, là. C'est vraiment bien. Mais j'aime bien, d'ailleurs, quand arrive cette scène où il questionne ça, tu sais, où justement, je pense que t'as fait allusion à ça avant, là. Je sais plus si c'est Murdoch qui se trouve devant le détective ou un autre personnage. Je pense que c'est Murdoch. Puis qui lui dit, il lui pose la question, genre, est-ce que tu connais Shell Beach? Est-ce que tu te rappelles la dernière fois qu'il y avait le jour, tu sais?
Oui, c'est ça.
Et puis, c'est genre, tu sais, c'est comme le truc auquel tu penses tellement, tu sais, ils sont tellement habitués à, dans une espèce de, qu'ils se rendent même plus compte qu'il fait plus jour depuis des lustres, tu sais, que c'est la nuit constante, tu sais.
Non, c'est ça.
Ils sont pris dans leur truc.
C'est ça, c'est comme tout, à chaque moment, à chaque minuit, en fait, ils s'y recommencent, ils sont comme rebootés, tu sais, il y a comme une sorte, ben pas tous, là, parce qu'on dirait qu'ils choisissent des gens, des gens qui continuent une autre journée, mais... Il y a quelque chose de vraiment... C'est ça, tu te dis, c'est peut-être ça être schizophrène, c'est de vivre dans une espèce de dark city comme ça, tu sais. Puis un autre truc qui est intéressant, c'est que je lisais sur Proya, il y a le scénariste qui a une autre idée, Proya qui a proposé quelque chose, mais la question, c'est qu'il n'a jamais répondu dans le film. Ça, j'aime ça quand les films font ça, ils ne nous disent pas tout. C'est qui sont vraiment ces êtres humains? Parce que là, on voit leurs souvenirs implémentés, mais ils sont qui? Donc, pour Proya, selon lui, c'est en fait des gens qui étaient sur un vaisseau spatial à la dérive puis qui ont été interceptés par ces extraterrestres-là qui les ont comme complètement... Parce que là, tu as une scène où est-ce que tu vois comment le docteur qui lui-même s'efface la mémoire?
Ouais.
Donc, ils ont effacé la mémoire de tout le monde. Lui, s'est effacé la mémoire. C'est l'espèce de... C'est un peu comme le... j'ai une drôle d'idée, là, mais c'est comme le... Tu sais, quand il y avait des camps de concentration, là, il y avait le juif qui travaillait pour les nazis puisqu'il y avait comme plus ou moins de choix, tu sais,
ouais.
Mais qui se retrouvait quand même à collaborer avec eux pour comme créer une sorte de... Ben lui, c'est ça, c'est le collaborateur, si tu veux, malgré lui, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'autres options dans sa tête. Ou ben, il y en a peut-être juste pas. Puis il s'efface lui-même la mémoire. Cette scène-là est quand même prenante, tu sais. Puis donc c'est ça pour Proya. C'est potentiellement un vaisseau spatial qui a été capturé, tu sais, dans l'histoire de science-fiction. Puis là, dans ce contexte-là, tu peux imaginer plein d'affaires d'où c'est qu'ils viennent, genre après, ce qu'ils pourraient, tu sais. Parce que après, à la fin, il n'y a pas une résolution où est-ce que Murdoch devient un peu... Il remplace toutes les Strangers, il devient un dieu, en fait, parce que lui a leur pouvoir. Mais ils sont pas libérés, on voit pas que les gens retrouvent leur vraie mémoire. Elle a probablement disparu à jamais, cette vraie mémoire-là, cette vraie qui je suis. Il y a pas une recherche, genre, à travers tout ce que les Strangers ont construit. Est-ce qu'on va trouver, genre, je sais pas moi, le journal de bord du capitaine de l'époque, c'était qui, etc. Quand est-ce que ça a eu lieu, ce changement-là? Parce qu'ils sont jeunes, là, ils sont vivants, là, donc il s'est passé quelque chose à un moment donné, il y a des enfants là, dans cette population-là, là, donc tu peux imaginer que ça s'est passé dans les 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, on ne sait pas.
On en voit tous les enfants?
Oui, les riches, ils ont des enfants. La prostituée, elle a une petite fille.
Ouais, c'est juste.
Puis n'oublie pas, les strangers, ils prennent les cadavres hein, pour se...
Ouais, d'où la présence d'un enfant.
Puis un enfant
c'est
aussi.
C'est creepy à fond, là.
C'est des pseudo-zombies, là.
C'est vrai, c'est des pseudo-zombies.
On ne sait pas. Pour un des scénaristes, il était plus dans quelque chose de métaphysique où c'était comme une sorte de purgatoire, où est-ce que c'était vraiment des vrais morts, tu sais, puis qui avaient été enlevés, tu sais, puis qui avait été remis dans cette cité-là. Mais moi, j'aime bien l'idée du vaisseau spatial, tu sais, genre comme Star Trek qui a été intercepté puis qui se retrouve dans un univers gothique, tu sais, puis qu'il ne saura jamais, puis qu'après ça, il n'y a comme pas de résolution, tu sais.
Ouais.
Puis en même temps, c'est un film qui peut pas, tu sais, il ne peut pas avoir une suite, il ne peut pas avoir une résolution parce que c'est comme une allégorie, en fait, c'est cette espèce de, tu sais... C'est ça, c'est juste
cette proposition-là. Qu'est-ce que tu veux construire comme autre histoire à l'intérieur de ce monde-là? Je veux dire, une fois que tu découvres comment fonctionne ce monde, bon, ben voilà, t'as ce petit microcosme qui va grandir. Ben, si lui, il a le pouvoir de créer des choses, tu sais, ben voilà, ça va peut-être que, tu sais, au final, il va créer une deuxième Terre, j'en sais rien, je trouve que ça se tient bien là, ça marche correctement. En tout cas, c'est un beau reveal là, à la fin, là, quand il découvre qu'en fait, t'as juste cette ville au milieu de l'espace là, qui flotte comme ça au milieu de l'espace. C'est comme, c'est trippant, là.
C'est comme, waouh, tu sais. Ben, moi, je l'avais pas vu venir la première fois que j'avais vu.
Moi non plus. Enfin, j'ai du mal à me rappeler, mais je le voyais pas venir.
Tu pensais pas que t'étais comme une espèce de petit vaisseau, de petite ville, quoi, tu sais. Tu pensais que t'étais quelque part sur Terre.
Ouais.
Puis ça crée quelque chose d'extrêmement... ça les fragilise beaucoup, là, soudainement, là. Tu sais, ils sont comme...
Bah ouais, mais c'est comme... Bah, ils sont perdus, là. C'est horrible, là. T'imagines, tu te retrouves dans une situation pareille.
C'est une ville, là. C'est gros comme une ville. Parce que... ce thème-là, de vouloir aller à Shellbridge, les métros qu'ils prennent... Puis, tu sais, ils arrivent toujours à des impasses. Ils peuvent jamais... Tu sais, comme la... Le métro, il faut prendre l'express, tu sais. Puis là, genre, il n'est pas dans l'express, mais là, le métro, il passe parce que c'est l'express, tu sais. Cette espèce de... Ce côté-là, c'est Kafka. Ça, c'est Kafka.
Ah oui, à fond, ouais. C'est le château, là. Tu veux arriver quelque part, mais tu ne peux pas y aller. Tu n'y arrives jamais, quoi.
Tu n'y arrives jamais, tu sais. Puis bon, évidemment, dans ce film-là, il arrive à quelque chose, mais tu es vraiment dans Kafka longtemps, là, dans ce film-là. Donc, c'est vraiment un plaisir.
C'est très kafkaïen, ouais. C'est vraiment très kafkaïen, ça, c'est vrai.
Il y aurait Akira aussi qui aurait inspiré.
Ouais, ça, je sais pas trop. Ben, bon.
Je ne me rappelle pas quel moment précis, mais
moi
oui.
Moi non plus, mais ouais. J'ai lu ça, que c'était aussi une influence, mais j'arrive pas à la spotter là, dans le film,
shame
particulièrement. Mais...
Donc,
ça fait un bout de temps que j'ai pas revu Akira aussi, donc j'ai peut-être j'ai pas toutes les scènes en tête, j'ai pas toute la subtilité du scénario en tête. C'est marrant parce que en voyant ce film, ça m'a fait penser à un jeu vidéo qui est très connu, qui s'appelle BioShock. Que si t'as jamais joué, peut-être un jour tu joueras à ça.
C'est lui qui a la chanson là, qui est super chouette, tout le monde connaît. Là.
La chanson qui est super chouette. Non, dans BioShock, t'as beaucoup de chansons des années 40, 50, là, comme ça.
BioShock, ça me dit quelque chose.
C'est BioShock, ça se passe dans les années 60. C'est un jeu à la première personne. Type shooter, tu sais. Où tu te retrouves dans une cité souterraine, une cité sous-marine.
Non, j'ai joué le BioShock 2, puis c'est un de mes amis qui me le fait jouer. Puis il faut que je joue le premier.
Le premier, c'est vraiment celui qui établit l'histoire, tout le contexte et tout de cette cité sous-marine. Donc t'arrives, tu t'écrases, tu survis un écrasement d'avion en mer, puis
J'en profite pour saluer Paul qui écoute souvent notre podcast. Que...
Je ne sais pas qui est Paul. Salut, Paul.
Puis c'est lui qui m'a fait jouer.
À BioShock?
Oui, ouais. J'ai joué à BioShock, mais la version 2. Puis là, évidemment, j'avais dit que je m'installerais la version 1, mais j'ai jamais eu le temps.
Si tu as l'occasion, joue au 1, parce que c'est vraiment celui qui te plante tout le décor, qui t'explique tout le fondement de tout ça,
non,
qui t'explique
c'est qui le
mégalomane, milliardaire qui a conçu cette cité sous-marine utopique, tu sais.
Oui, mais t'as raison que l'esthétique fait penser...
Puis ça m'a rappelé ça, quoi. Il y a un truc dans ce film qui m'a rappelé à fond...
Steampunk encore.
Ouais, voilà, steampunk à fond, qui m'a rappelé BioShock. Puis BioShock, c'est vraiment cette cité, elle est comme, t'as l'impression que c'est une cité des années, c'est une cité qui avait été construite genre après la guerre, donc dans les années comme 50, puis qui est comme restée figée à cette époque-là. Puis ouais, c'est ça, il y a un truc, ça m'a beaucoup fait penser à ça, quoi. Une ambiance très sombre, etc., très creepy, très dark et tout ça. Et bon, ça, c'est venu bien plus tard, là, c'est en 2007, bon, c'est pas... Ouais. Si tard que ça.
Mais
après,
c'est inspiré potentiellement de toutes ces trucs-là.
En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas joué à BioShock, c'est recommandé.
Mais le steampunk.
Ça existe toujours sur PC, sur.
Le steampunk,
c'est
défini beaucoup.
PS3. Ouais, excusez-moi.
Non. Faites ta plug, là. Vends le jeu. Mais le steampunk se définit vraiment beaucoup. Ah oui, on peut jouer sur Apple aussi en passant. Tu peux l'acheter en ligne et tout.
Tu n'as
pas besoin d'avoir toutes les PlayStation. Hein. Tu peux y arriver. Donc, le steampunk se définit beaucoup par. C'est comme une sorte d'antithèse de la science-fiction technique, là, tu sais. Parce que The Matrix, c'est très technologique, là, tu sais. C'est l'ordinateur, c'est la simulation, etc., tu sais. Dans le steampunk, t'es plus dans quelque chose comme...
C'est plus rétro, il y a un truc de rétro.
Il y a quelque chose de fantasy, parce que là, toute la proposition fonctionne sur... Tu sais, c'est absurde, là. Il mélange des petits liquides, puis il change ta mémoire avec
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Mais on n'y pense même pas, parce que c'est du steampunk, tu sais. Parce que tout est comme, tu sais, c'est pas là que se situe l'intérêt. On se pose pas la question, tu sais, c'est à la limite de la fantaisie, quoi. On est loin du hard sci-fi, mais bon, faut pas
vous plaisir. Non, mais regarde, ça marche autant.
Ah non, faut pas vous son plaisir, j'aime ça.
Ça marche autant, là.
J'aime
bien.
Beaucoup le steampunk.
Ouais, c'est marrant aussi dans ce film, j'ai écouté la bande-son, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec une musique faite par Trevor Jones, et je me rappelle d'une époque où Trevor Jones faisait beaucoup de musique de film. Et c'est marrant parce qu'en écoutant celui-là, j'étais là, wow, ça me rappelle un autre film, vraiment, quoi. Il y a vraiment des lignes de rythmique, tu sais, une espèce de comme ça qui est en background, tu sais, pour soutenir la tension d'une scène. Et c'est la même que, enfin, après la mélodie qui vient par-dessus, puis l'orchestration change, mais l'espèce de rythmique qui soutient tout ça, c'est la même qu'un film de, je pense que c'est un film d'Alan Parker qui s'appelle Mississippi Burning.
Ah oui, oui. C'est bon,
qui était aussi dans ces années-là, plus tôt. Et dont Trevor Jones avait aussi fait la musique. Puis il y a cette espèce de même ligne rythmique dessous. C'est un très bon film, d'ailleurs. Rien à voir.
Complètement différent. Mais oui, bon film.
Un film qui peut être pas mal à voir actuellement, avec tout ce qui se passe, notamment aux États-Unis.
J'imagine. C'est toujours, toujours
l'émergence
bon de rater cette histoire.
L'émergence de certains, certains mouvements
Je dirais la validation que ce président-là donne à certaines personnes qui eux-mêmes gagneraient à voir Mississippi Burning pour se rappeler pourquoi...
Pour se rappeler,
c'est que leur victimisation vient quand même de certains abus que leurs ancêtres, ce ne sont pas eux, mais leurs ancêtres ont commis, parce que j'aimerais qu'ils se détachent ou se distancient de la ressemblance qu'ils peuvent avoir avec certaines personnes d'une certaine époque, dont ils ont une sorte de nostalgie.
Voilà.
Mais j'aimerais...
Sans vouloir rentrer dans la politique américaine.
J'aurais voulu aborder un autre point. Pas un autre point, j'aurais voulu mentionner un autre film. On parle de plusieurs films de l'époque. C'est, il y a aussi le Truman Show qui jouait sur cette idée-là du monde factice.
Ouais.
C'est les univers factices, des mondes...
J'avais pas pensé à ça.
Puis qui est en 98, lui aussi.
Oh, ça. OK.
Ouais. Donc, tu sais, t'es vraiment dans ce...
Il y a vraiment un thème...
En 98.
Cher à cette époque-là.
Ouais, du monde factice, du monde qui est le... C'est quoi la réalité? C'est quoi... Tu sais, parce que dans Truman Show, c'est comme l'authenticité d'observer une personne qui, elle-même, vit un mensonge, tu sais.
Puis il fait partie d'une expérience aussi,
oui,
Truman.
Oui, Truman fait partie d'une sorte d'expérience.
Une sorte d'expérience,
en fait, c'est présenté.
C'est un show télé, mais qui est une expérience, finalement.
Mais le personnage de
d'humain qui a grandi en captivité, finalement, c'est un peu ça, quoi.
C'est ça.
Que t'observes.
Le personnage de... En tout cas.
Qui vit dans une simulation. Ça rejoint, ça fait lien avec les deux films, finalement. Mais ouais, ça serait un film à faire aussi. C'est marrant, je l'aurais pas, comme ça, là, je l'aurais pas placé dans la science-fiction, mais finalement.
Je trouve, parce que tout le côté.
Finalement, ouais, le côté, de simulation.
Toute l'espèce de technologie, c'était à l'époque, c'était comme une sorte d'un film d'anticipation, quoi, tu sais.
Ouais.
On parle d'une époque où est-ce qu'on était au début des téléréalités, là. Avec The Truman Show, là.
Ouais.
On n'était pas dans ce que la télé-réalité est devenue, là. Donc, c'était autre chose. Mais bon, donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur The Crow. On n'a pas beaucoup parlé du réalisateur.
Non, c'est marrant parce que c'était à l'époque, je trouve que c'était un gars qui était très prometteur. Il avait cette espèce de...
Et il a fait iRobot.
C'est lui qui a fait iRobot.
Oh
my God!
Pour descendre aussi bas,
Oh my God! Ouais, mais c'est pas lui.
OK, mais le pire, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'iRobot...
On lui a filé le film, il a pas dit non, là, tu sais.
iRobot, si t'enlevais le titre, ça serait un film que j'aimerais bien, puis c'est un film qui est très cinéma noir, en fait, tu sais. C'est un détective, puis il y a comme tous les thèmes cinéma noir.
Il y a un côté film noir, ouais.
Un côté film noir. En tout cas, définitivement détective, mais film noir, tu sais. Puis ça se voulait un film noir aussi à la base de scénario, donc j'ai trouvé ça bizarre. Qu'il propose à Alex Proyas. Donc, Proyas, il a fait...
Ah oui, avec le robot qui est accusé à tort, etc. C'est vrai que c'est très classique du film noir, ça.
Il a fait... Ouais, le robot et la femme, en fait, fatale. Là, qui a besoin d'être protégé par le... Enfin, plus ou moins, la femme fatale, des fois, elle est perfide. Donc, lui, il a fait The Crow. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, notre ami? The Crow, c'est probablement pas un film qu'on va parler, mais ça m'avait aussi beaucoup marqué à l'époque.
Ouais, moi, j'avais bien aimé The Crow. Ben, c'est pour ça, en fait, je pense, parce que j'avais beaucoup aimé The Crow, quand j'ai vu arriver Dark City, je me suis dit, Gods of Egypt. Ouh, ça, c'est une grosse catastrophe, ça.
Ah ouais?
Ça, c'est une grosse merde. Disons les choses comme elles sont. Appelons un chat, okay. C'est une grosse merde.
Mais notre ami Alex Proyas, qui a quand même fait 27 films, il a fait, son dernier film, c'est Gods of Egypt. Il n'en a pas fait depuis...
Ouais, ben malheureusement...
Projet en cours, il y en a deux en développement. Donc, il y a un film qui s'appelle...
27 films,
The Unpleasant Profession of Jonathan Hogg, j'aime bien le titre.
Ouais.
Vraiment, j'aime ce titre-là. Puis Humped. Avec un super accent.
Avec un H?
Ah, non. Non, pas d'H.
Oh, Amped.
Moi, quand je mets des H, il n'y en a pas. Puis quand il y a un H, je ne mets pas d'H. C'est pas compliqué. Faut que tu comprennes comment je parle en anglais. M, d'après un roman de Daniel H. Wilson.
Okay.
Alors, je ne sais pas c'est quoi.
Puis sinon, entre...
C'est une sci-fi. Hein,
avant Gods of Egypt, parce que ça, c'est vraiment...
Oui, OK, donc dans les 27 films, oui, parce que là, il y a ce qui s'en vient.
Mais bon,
il a fait un film qui s'appelle Knowing, en 2009.
Ah oui, avec Nicolas Cage, j'ai vu
avec
ça.
Avec Nicolas Cage, film qui
est
moyen.
C'est une espèce de... Ouais, c'était pas très bien.
Il a fait un truc de In Excess. Il a fait un truc qui s'appelle...
Je pense qu'il a fait des clips à une époque aussi.
Il a fait beaucoup de clips vidéo. Il a fait... Donc, iRobot, Garage Days. Quoi, ça, c'est une comédie qui n'a pas l'air bonne.
Je trouve presque dommage
Dark City,
parce que...
Mais il n'y a pas fait tant de films que ça, mais...
C'est comme quelqu'un qui a du talent puis qui on n'a peut-être pas laissé l'occasion de s'exprimer, tu sais, de faire quelque chose de personnel, tu sais, parce que je pense qu'il a un monde, il a une esthétique à lui, puis que ça c'est malheureusement perdu un peu parce que bon bah faut bouffer puis que voilà.
Mais on n'est pas au courant des dernières la scène parce qu'à un moment donné, mais je pense pas que c'est, il a pas été chanceux avec l'histoire de Brandon Lee dans The Crow là.
Non, c'est sûr. Regarde, je veux dire Dark City est un film culte, tu sais, je veux dire.
Mais a-t-il fait de l'argent?
Moins que Matrix, ça c'est sûr.
Je veux dire,
c'est un film très niche quand même, je trouve. Il y a un côté très niche. C'est pas du mainstream, là. C'est vraiment particulier, tu sais. C'est creepy, c'est bizarre, c'est étrange, tu sais. Ça plaît pas à tout le monde. Matrix, c'est un truc d'action. Il y a des guns, il y a des trucs et tout, des karatés. Vas-y, tu sais, ça plaît à tout le monde, là.
Exact.
Il y a Keanu Reeves, tu sais.
Oh, ben là-dedans, il y a des bons acteurs aussi.
Oui. Mais je veux dire, c'était un film étrange, quand même.
C'est William Hurt, c'est une star dans ces années-là, là.
Oui, mais néanmoins, ça reste un film moins accessible. Oui,
d'accord.
Que Matrix.
C'est plus niche.
Et je pense que Matrix... Ouais, puis je pense que Matrix...
Même chose
aussi, on en parlera la prochaine fois plus en détail, mais ça vient chercher quelque chose qui nous touche tous dans le sens, c'est genre, c'est notre réalité à nous qui est remise en question. On n'est pas dans un autre monde, là. On n'est pas dans un truc tellement... pas abstrait, mais tellement... extrême, fantaisiste, qu'on est détaché de ça, tu vois. Déjà, c'est une autre époque, machin, c'est des années 50, 40, 50, là.
C'est de l'allégorie, bizarre, là.
T'sais. Ouais, voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est de ce point de vue-là, ça a touché moins de monde. Des Matrix, ça vient de chercher tout le monde, parce que j'en connais, moi, du monde qui était tout ça. Oh my God, Matrix. Enfin, bon, de nouveau, on en parlera la prochaine fois, mais.
Ouais, moi, d'ailleurs, je pense que c'est vrai, Matrix.
Ça,
là,
genre
je vais me réveiller.
Blow
un jour.
Le mind de tout le monde, tu sais, Matrix.
Non, mais moi,
genre...
je sais, là, que je vais me réveiller dans un pot couvert de glu, puis je vais faire. J'attends juste ça.
Bon, ben, c'est bien la suite au prochain épisode, alors.
Mais,
on pourra
en
parler.
C'est vrai.
C'est bien, en fait, ça fait une bonne introduction dans le thème de, tu sais, de la réalité est-elle vraiment ce qu'on perçoit, etc.
Ouais,
c'est bien,
on est dans
un thème, là, on pourra se faire tous ceux de la liste qu'on a dit, là, finalement.
Ben oui, là, finalement, mais en fait, ce qu'on devrait faire, bon, d'abord, on pourrait demander à nos téléspectateurs,
nos auditeurs,
parce que là, on parle de film, je me suis mêlée. Alors, on pourrait demander à nos auditeurs s'ils ont une idée de film, de genre... récent qui fonctionne sur l'idée de d'une réalité de personnages qui vivent dans une réalité qui est pas réelle. Donc on a parlé de Truman Show, on a parlé de Matrix, on a parlé de Dark City, de quel autre film on a parlé qui était un petit peu dans cette espèce d'idée là où est-ce que les personnages Fight Club, un personnage qui est délusionnel, Usual Suspect, où est-ce que t'es dans une fabrication. Usual Suspect, c'est pas le même type de fabrication, mais ça reste une fabrication. T'écoutes tout un film pour t'en rendre compte à la fin
que en fait c'est tout dans
pour
la tête.
Pour ceux qui ont pas vu de Usual Suspect, dommage. Mais bon, c'est l'arrêté, c'est un grand film, puis voilà, vous savez qu'à la fin, t'es comme genre, non.
Ouais.
Non.
Le punch de la fin, il est très fort.
Non. Puis donc, cette idée du narrateur, il y aurait peut-être Shutter Island récemment qui joue un peu là-dessus.
Ouais
ça
et c'est un peu, ça rentre un peu dans une formule, tu sais. Je trouve que depuis Usual Suspect, il y a eu comme un peu une espèce de formule comme ça, tu sais.
Donc le personnage qui est ça, qui... Mais dans Shutter Island, c'est clairement une psychose, une histoire de psychose. Ouais. T'avais...
c'est un peu... Ça se rapproche de Fight Club.
Un autre film qui fonctionne de même, je sais pas dit de quelle époque, mais c'est encore avec Jennifer Connelly dedans.
Oh, oui, non, oui. Avec Russell Crowe, oui.
C'est quoi le titre?
Mais ça parle d'un personnage qui a réellement existé, là.
Oui, je sais, mais c'est la façon...
A Beautiful Mind,
c'est ça. A Beautiful Mind, mais c'est ça, Beautiful Mind, c'est de quelle époque? Je pense que c'est la même époque que c'est tous ces films-là. Là.
Ouais, c'est pas plus début 2000, non? Un truc comme ça?
2001.
Ah bah, tu vois.
Mais c'est en 98, puis 2001.
OK, ouais, c'est pas loin, ouais. C'est vraiment pas loin.
C'est pas loin. Mais cette idée-là du narrateur non fiable. Le narrateur non fiable, c'est le réalisateur, parce que quand t'es dans un narrateur absolu... Tu me suis-tu? D'habitude, tu vas suivre un personnage qui, lui, donc dans Usual Suspect, dans Beautiful Mind, dans les deux cas, parce qu'il est fou. Puis ça, c'est encore là, on parlait de l'expressionniste allemand.
Fight Club, pareil.
Fight Club, pareil. On parlait de l'expressionniste allemand, c'est le classique du... voyons, ce film... Ah, voyons, ils sont dans un asile psychiatrique à la fin, là. Puis il y a l'histoire de la peste et tout, là. C'est un des grands films d'expressionniste. Le cabinet du docteur...
Docteur Caligari?
Oui, le cabinet du docteur Caligari, c'est ça.
Okay.
C'est ça. Donc ça c'est là, probablement le premier film où est-ce que tu as un narrateur non fiable. Parce que toi, tu écoutes tout le film, tu écoutes l'histoire, t'es comme, c'est fou comme histoire, c'est intéressant, c'est weird, c'est pas trop. Puis à la fin, tu te rends compte que c'est deux patients qui sont assis sur un banc d'hôpital, qui sont dans un hôpital psychiatrique. T'es comme genre, OK, je viens d'écouter le récit d'un fou, tu sais. Donc c'est amusant de voir comment Dark City va chercher tous les films d'expressionnistes allemands, finalement. M. Le Maudit, Le cabinet du docteur Calcari, Metropolis. C'est des quatre grands classiques de l'expressionniste allemand. Ah, c'est fou, j'avais même pas pensé au cabinet du docteur Calcari, qui est peut-être un de mes films préférés de tous les temps. Donc ça a été le premier, je pense, film où est-ce que tu avais un narrateur non fiable.
Non fiable.
Puis dans le cas de Dark City, le narrateur non fiable, c'est le narrateur omniscient, parce que toi, tu vois, ben, avant que, évidemment, tu as les studios qui sont allés te mettre une voix pour
pour faciliter la compréhension. Ouais, mais bon, je pense que ça aurait bien marché. Enfin, justement, j'aimerais voir la... Mais... Bon, évidemment, quand tu connais le punch, tu as une approche différente, mais je pense que c'est juste plus subtil. C'est moins les gros pieds de regardez, on va vous prendre par la main dès le début pour vous.
C'est ça.
Heureusement
c'est
qu'ils disent pas fond, tout là, mais bon, déjà je trouve de révéler quand même, c'est qu'il y a les strangers qui ont la capacité de modifier la réalité. Déjà là, ça te casse un peu le truc, tu sais. Mm. Parce que bon, tu les vois arriver, oh, ok, c'est eux qui font ça. Genre, il n'y a pas de surprise. La surprise, oui, tu l'as à la fin avec où tu découvres que la ville, elle est, c'est une petite ville toute seule, là, comme
mais,
ça.
Mais c'est ça, mais même au début, avant que les strangers apparaissent, parce qu'on voit ces personnages-là, ils sont là, on les voit, là, mais ça pourrait très bien être, je ne sais pas, la Gestapo, ça pourrait être, on est dans un monde totalitaire.
Bon, en même temps, tu comprends très vite qu'il y a un truc bizarre, parce que quand il arrive vers quelqu'un, puis il fait « sleep now ».
Oui, oui, oui.
Et puis le gars s'endort
immédiatement. Évidemment, quand il sort Murdoch, puis tout le monde est en train de dormir, il y a quelque chose d'étrange. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on le sait tout de suite, que ces personnages-là, ils ont un pouvoir magique, là, puis qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe. Mais tu sais, ça pourrait justement être une sorte de dictature, pareil, là. Tu sais, ça pourrait être une sorte de...
Juste une petite observation, réalistement, si tout le monde s'endort au volant, il y aurait eu beaucoup d'accidents, là.
Ah, mais c'est les voitures de l'époque, t'as
mais
pas
je
vu?
Je sais, oui, elles ralentissent.
Tu peux pas va vite, là, tu sais. Probablement un mécanisme. Là, c'est sûr que si on commence à faire une analyse de Dark City, d'un point de vue, Marie-Louise a un bac en physique, puis elle va t'analyser scientifiquement, ça marche pas, là. Déjà, juste la seringue qui comme s'en va comme faire des commotions, qui s'en va comme démolir le cerveau à chaque fois. T'as vu la taille de la bébelle qui rentre, là? Moi, je pense qu'il devrait juste se réveiller à moitié zombie, là, puis avoir perdu des cellules, là. Tu sais, tu rentres là-dedans. Je veux dire, je peux bien croire, là, mais mettons, tu sais. Puis là, tu peux rentrer aussi dans toute l'histoire. Ben oui, mais là, si un tel a changé, puis les autres n'ont pas changé, comment ils vont faire? Comme genre, ils étaient riches, ils vont bien voir que ça n'a pas d'allure la veille. Il faut qu'ils changent les mémoires de tout le monde pour que ça fête avec leur histoire. Donc, dès que quelqu'un connaît quelqu'un, il faut qu'ils changent la mémoire de toutes les gens qu'ils connaissent.
Quand tu commences à chercher, là, il y a plein de trucs qui marchent pas.
Ouais. C'est ça, exactement. Mais c'est la beauté de ce film-là, justement, d'avoir mis tellement... une belle histoire que t'embarques dans les personnages, que tu rentres dans cette espèce d'intrigue-là. Peut-être qu'Olivier aurait pas aimé ça, c'est son genre d'être pointilleux sur des affaires de même.
C'est dommage, il nous aurait fallu un contrarien dans le...
Ouais! Non, mais tu sais, genre de personne... Tu sais, toutes les gens qui ont critiqué Westworld pour des détails, oui, mais ça se peut pas, parce que... Ben oui, ça se peut pas, on le sait que ça se peut pas.
Il y aurait pas de série, là, tu sais.
On s'en fout que ça se peut pas, là, tu sais, genre comme Game of Thrones, ça se peut pas non plus, puis t'aimes ça, Game of Thrones, tu sais, genre laisse-nous avoir du fun d'écouter Westworld sans nous dire qu'un parc de même, ça marche pas parce que tu sais il y a telle affaire qui pourrait se passer puis là il pourrait tu sais on le sait tu sais donc Dark City ça tient pas la route pour ces gens là on est d'accord mais c'est des allégories
pour les comment t'appelles ça avant qu'on commence les questioners
pour les questioners extrêmes
c'est une petite parenthèse à une conversation qu'on avait juste avant d'enregistrer on parlait des quatre types de
selon Gretchen Rubin qui a écrit le livre Happier et les quatre The Four Tendencies
ouais c'est ça les quatre types
ouais les quatre types de personnalité selon ce qui vous motive dans la vie
voilà,
on a plugué Gretchen Rubin. Je ne sais pas si tu vas le mettre dans tes plugs, mais...
Peut-être. dans les liens, peut-être,
oui. pas dans les plugs, mais dans les liens, dans les discrétions.
Ouais.
Dans les discrétions. On en a fait quand même une couple de discrétions. Donc, je trouve qu'on a un bon plan d'essayer d'explorer ces films-là. Puis ce que j'allais dire, c'est... Pour les prochains épisodes, l'exercice que toi et moi on doit faire, et si on peut avoir du feedback, ça nous aiderait, c'est pourquoi à la fin des années 90, ou est-ce qu'on se trompe, mais pourquoi est-ce qu'à la fin des années 90, ce type de film-là était extrêmement populaire?
Ça
disait quoi sur la société de cette époque-là, la pré-11 septembre? Post-11 septembre, qu'est-ce que ça l'a changé, tu sais? Puis ça serait quoi aussi les autres films que vous connaissez qui auraient été des films de...
De cette époque-là
qui sont des histoires de soit de narrateurs non fiables ou de faux mondes dans lesquels les gens vivent, de mondes artificiels. Comme The Truman Show,
jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Ouais,
donc,
ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple?
Westworld peut s'inscrire là-dedans. Moi, je le mettrais un petit peu quand même là-dedans, dans l'idée que les êtres artificiels eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils ne vivent pas dans un vrai monde, puis ils en prennent conscience. Mais c'est une façon... Ça va un peu dans cette influence-là. Ça ne serait pas étonnant que Nolan invoque Dark City comme une de ses références quand il a écrit Westworld sur comment
ça
les...
Ça pourrait bien, ouais,
comment
ça
les,
bien.
Parce que, sérieusement, les êtres humains dans Dark City ressemblent
Nolan
au...
Nolan dans Inception, déjà, on disait.
Oui, c'est ça. Puis Nolan frère, là, c'est pas les mêmes Nolan.
Oui, mais je veux dire, il y a des thèmes récurrents dans ce qu'ils font, là. Entre eux, là, il y a des thèmes récurrents.
Mais donc, c'est ça, Jonathan Nolan?
Jonathan Nolan. Westworld, c'est Jonathan Nolan.
Oui, ouais, c'est Jonathan Nolan. Lui, c'est clair que c'est, quand t'es dans Westworld, les robots, les androïdes, les robots.
Les artificiels, quoi. Je sais pas comment les appeler.
Les humains artificiels, les
êtres. Les guests, les hosts en anglais, tu sais.
Ah, ben c'est ça, les autres, les hosts.
Les autres, oui.
Ben, ils ressemblent beaucoup aux personnages qu'on a dans Dark City. Ils sont dans une. Parce que dans Dark City, t'as cette impression-là qu'ils sont dans une loupe, tu sais. Ils tournent en rond. Il y a le thème du cercle dans les deux.
Dans toutes les 12 heures, finalement, là, tu sais.
Puis, tu sais, le cercle qu'on voit dans Dark City, écoute, c'est la même chose, c'est le labyrinthe qu'on voit dans Westworld.
C'est vrai.
Donc, tu sais, clairement, je pense que je parlais à Jonathan, j'avais Jonathan Dark City, hein. ça t'a un petit peu motivé, hein.
Et Jonathan, faut qu'on te dise un truc.
Donc, on a un plan pour les prochains.
Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer à 24quartz@gmail.com ou sur Twitter ou sur Facebook. Ouais, venez jaser avec nous sur Facebook, ça se passe bien. C'est chouette, on aime ça.
On a eu des belles suggestions.
Ouais, ouais, on apprécie beaucoup quand il y a des petits avis, des petites conversations, des petites questions, c'est cool. Bon, ben, on a fait le tour.
Bon, oui, c'est fini. On n'a plus rien à dire sur
Twitter.
Ouais, on est plate.
On pourrait continuer. Non, mais je veux dire, là, je pense que on a pas mal fait le tour de l'affaire.
Oui, on pourrait continuer d'en parler parce qu'il y a vraiment plein de petits détails et des trucs vraiment chouettes qu'on adore, mais effectivement, on a fait le tour.
C'est ça. D'ici la prochaine fois, Marie-Louise, on peut te joindre sur Facebook, marie-louise.rip sur Facebook.
Moi, je réponds toujours quand il y a des commentaires sur la page Facebook.
Bien sûr.
Ben, j'essaie, pas tout le temps, mais souvent.
Moi, c'est Stedinik sur Twitter. Pour vous abonner au podcast, bien sûr, c'est sur 24quarks.com ou sur iTunes. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles au passage. Ça, c'est très apprécié, comme je l'ai dit tantôt. Écoutez-nous aussi sur Balado Québec, Pod Québec, RZ Web. Et puis, Twitter, c'est @24quarks. Et puis, donc, comme on le disait tantôt, venez jaser sur notre page Facebook, on aime ça. La prochaine fois, donc, c'est The Matrix.
The Matrix. Peut-être avec un invité.
Ouais, peut-être
ou pas.
Avec un invité. Invité ou pas, ça sera The Matrix.
Et, les gens sont bien occupés, mais on essaie d'en convaincre.
Ouais. Vu que j'ai mis la bande-annonce la dernière fois, je ne vais pas la mettre cette fois, on se termine direct. Donc,
allez, mais la bande-annonce de Dark City, parce qu'on ne l'a pas mis la dernière fois.
Ouais, ok, d'accord.
Ah, bon, écoutons avec la belle musique.
Ok, d'accord.
Mettons Dark City.
Ben, merci beaucoup de votre fidélité et puis on se retrouve très très prochainement. Bye bye.
From her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.